Ce matin, avant que je prêche pour vrai, j'aimerais qu'on puisse se mettre un petit peu dans l'ambiance de la Pâque. J'aimerais juste avec vous qu'on revise un peu dans l'Évangile de Matthieu, dans le chapitre 26. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé la Pâque? Comment ça s'est passé la mort de Jésus? Puis je vais vous avouer que, tu sais, Pâques, on connaît ça, hein, ça fait longtemps qu'on connaît Dieu. Puis, ça fait longtemps qu'on sait que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, puis qu'il est ressuscité le troisième jour. Mais quand j'ai pris le temps de m'asseoir, puis de vraiment ressortir tout comment ça s'est passé en détail, pas faire une étude approfondie, c'était pas ça mon but, mais juste de ressasser les événements, puis de mettre tout ça dans un bloc. C'est comme ça fait toute une autre affaire. Tu sais, c'est comme si je vous raconte que j'ai eu un accident de voiture, vous allez faire « Ah, wow, elle a vécu quelque chose de gros. » Mais si je me mets à vous compter tous les détails de mon accident de voiture, ben ça va prendre une autre signification, ça va prendre une autre forme, puis vous allez avoir un peu plus de compassion pour moi si je donne tous les détails. J'ai fait 3 tonneaux, j'ai viré à l'envers, que je vous dis juste que j'ai eu un accident de char. T'sais. En passant, j'ai pas eu d'accident de voiture, là. Avant qu'il y ait des rumeurs qui partent. Puis, fait que je veux qu'on regarde ça ensemble ce matin. J'ai juste ressorti les grandes lignes de Matthieu 26. Fait qu'ici, on a l'histoire de notre merveilleux Jésus, celui que nous aimons de tout notre cœur. Cette journée-là, c'était pour tout le monde une journée bien ordinaire. Une journée qui ressemblait à une journée normale. Et pour Jésus, lui, c'était pas une journée normale, parce que Jésus, lui, savait. Il savait qu'aujourd'hui, c'était sa dernière journée. Jésus savait qu'aujourd'hui, lui, il devait mourir. Qu'aujourd'hui, il devait passer au travers des atrocités de la croix. Jésus savait qu'est-ce qui allait y arriver. Mais pour lui, c'était une journée. Pour les autres, c'était une journée normale. Jésus dit à ses disciples d'aller réserver une salle spéciale. Parce que ce soir, il allait avoir il allait célébrer la Pâque ensemble avec ses disciples. Jésus savait que c'était pour être son dernier repas avec ses amis. Puis on oublie souvent que Jésus, oui, était Dieu, mais Jésus était aussi 100% humain. Et que dans son humanité, ça peut être facile de savoir qu'aujourd'hui, c'est la dernière fois que je vais souper avec mes amis. C'est la dernière fois que je vais voir ma mère. C'est la dernière fois que je vais voir les gens que j'aime. Jésus savait qu'est-ce qui s'en allait. Jésus est assis avec ses disciples autour d'une table et célèbre la Pâque. Et durant le repas, à un moment donné, Jésus regarde ses amis puis lui dit, « Ce soir, il y en a un de vous qui va me livrer. » Ses amis se choquent. « C'est-tu moi? C'est-tu moi? C'est-tu moi? Personne ne va faire ça. » Jésus fait juste dire, « Le prochain qui va manger après moi, ça va être lui. » Personne, je pense, savait vraiment ce que ça voulait dire. Je pense pas qu'il était vraiment conscient de ce qui allait se passer. Ensuite, après le repas, Jésus prit la Sainte Cène avec ses apôtres. Après ça, après le repas, ils ont décidé de se rendre sur le mont des Oliviers, où ce que Jésus a eu une discussion profonde avec ses disciples qui, encore une fois, sûrement n'ont pas trop compris ce qui se passait. Jésus a décidé de leur annoncer sa mort, sa résurrection. Puis Jésus discute avec eux en leur disant, « Aujourd'hui, je vais mourir. Aujourd'hui, je vais vous quitter. » Ben, n'ayez pas peur, je vais revenir à la vie. Et puis, c'est à ce moment-là que Jésus, il avertit Pierre. Pierre, cette nuit, même toi, cette nuit, tu vas me renier. Puis Pierre, de répondre, c'est sûr, hein, Pierre, je vais jamais faire ça, Jésus, voyons donc. J'aime mieux mourir que de te renier. Puis tous les apôtres de défendre aussi, de dire, non, 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 jamais, on pourrait pas faire ça, on t'aime ben trop. Tous les disciples se défendent en disant « On fera jamais ça. » Jésus savait, lui, par exemple. Ensuite, Jésus se rend au lieu qu'on appelle Gethsémané, où Jésus se retirera pour aller parler avec son Père. Puis, Jésus décide d'apporter... Ça marche-tu, Mathieu? Mathieu, veux-tu les changer? Change l'image, moi, te dire au fur et à mesure. Jésus est là, dans le jardin de Gethsémané. Jésus a amené avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. C'est à ce moment-là que Jésus, la Bible nous dit que Jésus a commencé à éprouver de la tristesse. éprouver de l'angoisse. Jésus a fait une crise d'anxiété quasiment. Lui, il sait qu'il va mourir. Il sait qu'en plus, ça ne sera pas facile. Puis Jésus est là, prend du temps avec son Père, puis il parle à son Père. Puis Jésus dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Est-ce que vous pouvez rester avec moi, mes amis? » Il y en a trois, puis il leur dit, « Je vis un moment difficile, je suis triste jusqu'à la mort, pouvez-vous rester avec moi? » Jésus se retire un peu plus loin pour aller prier son Père. La Bible nous dit qu'il s'est jeté la face contre terre. C'est un peu comme cette image-là. Et puis Jésus s'adresse au Père en lui disant, « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance. » Il dit, « Pourtant, ne fais pas ce que je veux, mais fais ce que tu veux. » La parole de vie nous le dit comme ça, « Père, fais ce que tu veux, mais dans le fond, je ne veux pas. Je ne veux pas mourir. » Jésus revient, il trouve ses disciples endormis. Il les réveille. Imaginez, il vient de leur dire, « Je suis triste jusqu'à la mort. » Sauf qu'ils tombent endormis. Il retourne encore prier avec son Père une autre fois pour dire les mêmes paroles, « Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas que ma volonté soit faite, mais que la tienne. » Il revient, il trouve ses disciples encore endormis. C'est pas écrit dans la Bible, mais je vous dis sûrement. Sûrement qu'il y a tout un sentiment de solitude qui a dû s'emparer de lui. N'importe quel humain, là. La Bible nous dit que Jésus était 100% humain, là. Dans son humanité, là. Tu le sais que tu t'en vas mourir. Puis tes amis ne sont même pas capables de te supporter dans ta détresse. Ils dorment dans ta face. Puis je sais que Jésus comprenait, mais sûrement que la solitude a dû emparer son cœur, a dû le saisir. La Bible nous dit qu'il était angoissé, qu'il était triste. Puis il devait vivre ça tout seul. Il repart prier une troisième fois. Et il fit encore la même prière. En demandant au Père, « Père, que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas que ma volonté soit faite, mais que la tienne. » Il revient, il trouve ses disciples encore endormis. Puis là, il leur dit, « Vous pouvez dormir, là, il est rendu trop tard, là. » Il leur dit, « L'heure est venue et c'est arrivé maintenant que je vais être livré entre les mains des pécheurs. » Jésus sait que Judas s'en vient. Jésus sait que c'est la fin. Judas arrive avec une foule nombreuse, armée de bâtons, prêts à faire la guerre. Judas s'approche. Judas, n'oubliez pas, c'était son ami. Judas, c'est un de ceux qui a suivi Jésus pendant 3 ans. Hein. C'est un de ceux que Jésus aimait, comme les autres. Judas s'approche et par un baiser, il a trahi son maître. Par un baaiser, tous les soldats sont arrivés pour s'emparer de Jésus. Il y a un des amis, un des disciples de Jésus qui, lui, dans sa fougue, dans sa fureur, a sorti une épée, il a frappé le soldat puis il a coupé une oreille. Jésus, dans sa bonté, dans son amour, s'est penché, a repris l'oreille, a recollé ça à sa place. Il sait qu'il s'en va mourir. Il le recolle à sa place. Et voici ce que Jésus lui dit. « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant des milliers d'anges pour venir me secourir? » Et Jésus rajoute ceci qui est super puissant, puis on dirait que cette année, ça m'a plus frappé. « Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il est écrit qu'il doit en être ainsi? » Il faut que je meure, gang. Ça me tente pas. Mais j'ai pas le choix. Il faut que je meure. Parce que il faut que les Écritures s'accomplissent. Puis ceux qui connaissent l'Ancien Testament, ça nous parle que la mort de Jésus sera pas... Il meurt pas d'un accident de char, là. C'est écrit, là. Il va être crucifié. C'est écrit qu'il allait souffrir. Quand on prend le temps de l'écrire Isaïe, qui nous dit que son état ne ressemblait même plus à un état d'homme, tellement qu'il allait souffrir. Jésus le savait, ça. Il connaissait les Écritures. Il savait que ce n'était pas une partie de plaisir. Et pourquoi il l'a fait? Simplement par amour pour toi et moi. Pour que nous, on puisse être ici ce matin. puis profiter de sa présence. Profiter de qui il est. Profiter de tout ce qu'il nous amène dans nos vies. Jésus déclare à la foule que ce qui arrive est tout simplement l'accomplissement des Écritures. Faites pas de guerre, faites-en pas un plat, là. Je vais vous suivre. Parce que de toute façon, vous faites juste accomplir les Écritures. Jésus, il quitte. Et puis ses amis pognent panique, puis ils s'en vont, toute la gang. Tous ses amis prennent la fuite, ils se poussent. Encore la solitude, l'abandon. Ils m'abandonnent, ils s'en vont. Jésus fut amené devant Caïphe et des faux témoins qui ont été payés, dans le fond, pour faire des faux témoignages contre Jésus. On lui pose la question, « Es-tu le Fils de Dieu? » Caïphe lui demande ça. Et Jésus répond, « Tu l'as dit. Oui, je suis le Fils de Dieu. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, venant sur les nuées du ciel. » Jésus a été mis à mort, et puis là, ça commence. On lui a craché au visage. On l'a frappé. On l'a ridiculisé. On y a mené la vie dure. Puis, on ne voit pas très bien, parce que je voulais faire attention aux images, mais quand on l'a fouetté, là, on a déjà parlé, mais c'est pas nos petits fouettes là, qu'on a aujourd'hui. Vraiment, on n'a même plus de fouettes, on ne sait plus à quoi ça ressemble. Les fouettes étaient faites de lanières de cuir. Puis, si je ne me trompe pas, il me semble que c'était cinq lanières, mais à chaque bout, c'était des bouts d'os qu'il y avait à l'extrémité. Quand on fouettait Jésus, on le voit un peu sur l'image, ça rentrait dans la peau, puis ça s'était retiré. Et c'était de nombreux coups de fouet que Jésus a reçus, pas juste un. On l'a pas manqué, on l'a magané. On l'a magané, notre Jésus. C'est à ce moment-là aussi que Jésus, que Pierre a renié Jésus. Jésus le savait. Il lui avait dit. On l'a emmené devant le gouverneur. On l'a emmené devant Ponce Pilate afin qu'il soit jugé. Et avant de l'amener chez Ponce Pilate, on l'avait déjà magané. On lui avait déjà craché au visage. On l'avait déjà ridiculisé. Mais c'était pas assez, ça n'en prenait plus encore. On lui repose la question, « Es-tu le roi des Juifs? » Parce que si on connaît l'histoire, Ponce Pilate, il n'y avait pas grand chose. Lui, il disait comme, « Qu'est-ce que vous faites là? C'est un innocent. » Je veux dire, il n'y a rien. Oui, mais il se proclame le roi des Juifs. Il veut être le roi, il veut tout nous détruire. Et Ponce Pilate lui dit, « T'es-tu le roi des Juifs? » Cette fois-ci, Jésus fait juste répondre, « Je le suis. » Sans rien ajouter. Ponce Pilate, qui lui, sa femme avait eu un rêve, qui lui disait, « Mêle-toi pas de cette histoire-là. Là. Mêle-toi pas de ça. » S'est lavé les mains en disant, « Je vous remets son sang entre vos mains. Moi, je ne serai pas responsable de sa mort. Ça vous appartient. » C'était la coutume à l'époque qu'à la Pâque, on relâchait un prisonnier. On en a deux maintenant. On a Jésus, on a Barabbas. Qui on va relâcher? Et la foule, le crier, avec une amertume dans le cœur, avec une méchanceté. On va crucifier Jésus, puis on va relâcher Barabbas. Barabbas fut relâché. Et Jésus fut battu de verge. On ôta ses vêtements. On le couvra d'un manteau écarlate. On lui mit une couronne d'épines sur la tête. C'était pas assez. On lui mit un roseau dans la main. Et les soldats s'agenouillaient devant lui en disant, « Salut, roi des Juifs! » On se moquait de lui. C'était vraiment un prophète. Dis-nous qui t'a frappé. Si vraiment t'es le Fils de Dieu, tu devrais tout savoir. On l'a ridiculisé, on s'est moqué de lui. On lui a ôté ses vêtements, on l'a magané. Ils n'en ont pas pris soin, là. Tout ça afin que les Écritures s'accomplissent. Ensuite, on le força à marcher avec sa croix au travers de la ville. Et arrivé au mont Golgotha, On a pitié de lui, sarcastique, c'est du sarcasme. On lui donne de quelque chose à boire, du vin mêlé d'une espèce de vinaigre. Je ne sais pas si tu le sais, là, mais quand tu as été battu et que tu as du sang partout, tu as des blessures, puis on te fait boire ça. La Bible dit que Jésus, après y avoir goûté, il n'en a plus voulu après. Là. Je dis, il devait penser que c'était de l'eau, là, mais finalement, c'était pas de l'eau. On décide de lui planter des clous dans les mains, dans les pieds. Ensuite, on lui retira ses vêtements. Et on décide de faire un jeu. Non seulement c'était pas suffisant de le déshabiller, mais on va faire un jeu avec ses vêtements. Afin que les Écritures de l'Ancien Testament s'accomplissent, on a tiré au sort, puis on partageait ses vêtements. Et maintenant, on redresse Jésus. Et on le crucifie sur une croix. Les premières paroles que Jésus dit sur la croix sont ceux-ci. Père, pardonne-leur. Ils savent pas ce qu'ils font. Pas sûr que j'aurais dit ça. Père, pardonne-leur. Ils savent pas ce qu'ils font. De la 6e heure à la 9e heure, il y a eu des tremblements de terre sur la surface de la terre. Ça l'a brassé dans le ciel. Le Fils de Dieu était après mourir. Et puis l'ennemi savait très bien aussi. Il connaissait les Écritures. Que ce Fils de Dieu-là, c'était pas la fin, c'est le début. Imaginez un instant sa mère, ses amis qui sont là, qui voient le Jésus qu'il aime sur la croix. Pour eux, c'est la fin. Il va souffrir pour nous. En plus, on le crucifie entre deux voleurs, deux bandits. Un qui a un cœur pour Jésus, puis l'autre qui se moque de Jésus. La parole nous dit que vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour la première fois de sa vie, il n'avait plus le regard de Dieu sur sa vie. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que Jésus a porté tous les péchés de l'humanité. Il a porté tous nos fardeaux. Il a porté toutes les gaffes qu'on a faites, ceux passés, ceux présents, ceux futurs, que Jésus a tout porté. Et Dieu, qui est un Dieu saint, ne pouvait juste pas supporter ça. C'est à ce moment-là que Jésus poussa un grand cri et rendit l'âme. Jésus meurt. Après, on le descend, on le prend, puis on va le mettre dans un tombeau. C'est là qu'on dépose. J'aimerais que sur ceux-ci, qu'on puisse prendre la Sainte-Cène du matin. C'est pour ça que Mario puis Laurent puissent juste venir distribuer le... Combien de fois qu'on prend la Sainte-Cène, puis que... C'est comme une routine, hein? Puis ce matin, en se rappelant, c'est frais, là, les souffrances que Jésus a vécues à la croix. C'est dans cet esprit-là qu'on puisse l'apprendre. Avant qu'on. Pendant que les gars distribuent de 1 Corinthiens 11. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit ceci: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Prendre la Sainte-Cène, c'est se rappeler. de toutes les souffrances que Jésus a vécues à la croix. Prendre la Sainte Cène, c'est pas un rituel qu'il y a dans nos églises évangéliques, dans nos églises catholiques, dans nos églises tout court, juste parce qu'il faut le faire. Prendre la Sainte Cène, c'est me rappeler de ce que Jésus a payé à la croix, de me rappeler du sacrifice que Jésus a fait. Et puis si ce sacrifice-là n'est pas vivant en moi, m'arranger pour le rendre vivant. Une chose que je fais moi dans mes temps avec Dieu, c'est que à toutes les semaines, ben je dirais presque à tous les, au moins 3 fois par semaine, j'écoute toujours des chansons sur la croix. Je fais toujours exprès pour dans ma playlist de musique de mettre des chansons sur la croix. Pourquoi? Parce que je veux pas oublier ce que Jésus a payé à la croix pour moi. Je veux pas que ça devienne juste, c'est la Sainte Cène, Jésus est mort sur la croix. Non, c'est plus grand que ça. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en buvez, que vous en boirez, excusez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Qu'on puisse prendre le pain ensemble. Père, ce matin, on te dit merci pour le sacrifice de ton corps. Merci que tu as accepté d'obéir à la volonté de Dieu. Merci parce que alors que tu étais dans le jardin à agoniser devant ton Père, tu as pris le temps 3 fois de lui dire, je veux pas y aller à la croix. Je veux pas mourir. Mais que ta volonté soit faite. Et merci que ton sacrifice, que ton obéissance à la volonté de Dieu a été là. Afin de permettre que nous, aujourd'hui, on puisse te connaître. Que nous, aujourd'hui, on puisse connaître ton Père. Tu es venu sur la croix, sur la terre, sur la croix, afin d'ouvrir le ciel vers le Père. Afin qu'on puisse avoir accès au Père. Afin qu'on puisse avoir accès, nous aussi, à cet amour infini que le Père donne. Jésus, merci pour ce sacrifice. On va prendre la coupe ensemble. Merci pour tout ce sang qui a été versé sur la croix. Père, pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous pour faire de la croix une routine, une habitude. Pardonne-nous d'avoir perdu la grandeur, l'importance de ce sacrifice. Pardonne-nous de prendre pour acquis que Jésus t'est mort. Oui, t'es mort. Mais t'as souffert. T'as souffert par amour pour chacun d'entre nous. T'as souffert afin que nous, on puisse avoir une vie libre du péché, libre de la maladie, libre de l'angoisse, libre de l'anxiété, libre de la peur, libre de tout ce qui nous retient. Ta parole nous dit que sur la croix, tu as payé le prix pour nos péchés. Tu as payé le prix pour nos maladies. Tu as payé le prix afin qu'on soit libre. Pardonne-nous, Père, de négliger par moments la grandeur de notre salut, la profondeur de notre salut. Pardonne-nous d'oublier à quel point le salut qu'on a aujourd'hui, il a coûté cher. Il a coûté le prix de ta vie, Jésus. Puis pas une petite vie, une mort facile. Une mort remplie de souffrance physique, de souffrance émotionnelle, de souffrance dans ton âme. Parce que t'as vécu le rejet de tes amis. T'as vécu la trahison. tu as vécu d'être abandonné, d'être laissé de côté. Pas ce matin, on te demande pardon. On veut revenir à l'essentiel de la croix, à réaliser à quel point c'est un cadeau merveilleux. À quel point c'est un cadeau précieux. Ramène-nous près de ton cœur. Ramène-nous près de ton cœur. Ramène-nous près de ton cœur, Jésus. Ce matin, on te dit merci. Merci pour ce sacrifice que tu as fait afin qu'on puisse être ici ce matin, tous ensemble, à célébrer ta mort, à célébrer la résurrection, à célébrer ta grandeur, à célébrer qui tu es. Merci pour ce précieux sacrifice, Jésus. Merci. Merci. Je te dis merci, Jésus, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. que l'histoire ne s'arrête pas au fait que tu es mort, qu'on t'a mis dans un tombeau, qu'on a roulé la pierre et que tout le monde a reparti vivre sa vie. Parce que l'histoire prend vie le matin de Pâques. Où ce que Marie, accompagnée de ses amis, décide d'aller t'amener, d'aller mettre du parfum. Quelle surprise d'arriver et de trouver un tombeau ouvert. La panique s'empare. On a volé notre Jésus. On l'a volé. Puis on connaît l'histoire. On l'a pas volé. C'est la puissance de Dieu qui est venue puis qui l'a volé. C'est que Dieu est venu voler à l'enfer tous ses démons. La puissance de la mort. Que Jésus est venu, le Père est venu briser la puissance de la mort afin de libérer la vie. Donc, on va continuer maintenant avec une... En tout cas, je ne sais même plus comment continuer ça. Je veux qu'on parle de la résurrection un petit peu. Sarah, tu peux rester ou tu peux t'en aller. Fais comme tu le sens. Fais comme tu le sens, ma belle. Reste donc là. Reste donc là. Ouais. On planifie des choses dans notre tête, hein, puis on arrive, c'est autre chose. Notre Jésus est ressuscité. Et c'est ça, Pâques. Oui, c'est sûr que, regardez, sans la mort, il n'y a pas de résurrection. Jésus est ressuscité et la mort n'a pu le retenir. Ça faisait 3 jours qu'il était mort quand même, là, et il est repris à la vie. La vie est venue revivre en lui à nouveau et Jésus a vaincu la puissance de la mort. Par sa résurrection, Jésus est venu libérer la vie. La vie a pu enfin reprendre place puis reprendre naître. Jésus est venu briser le pouvoir de la mort, le pouvoir de la maladie, le pouvoir du péché, le pouvoir de la puissance obscure, dans le fond, sur nos vies. Par la résurrection, Jésus est venu briser ça. Le chagrin qui avait envahi les cœurs de tous ceux qui aimaient Jésus. Imaginez un instant le désespoir que les apôtres ont pu avoir. Pendant 3 ans, on a suivi cet homme-là. On a donné nos vies. On a marché avec lui. Ils en ont fait du millage. On a vu des choses extraordinaires s'accomplir. Ils ont vu Lazare ressusciter. Ils ont vu des morts venir à la vie. Ils ont vu toutes sortes d'affaires. Mais ils n'avaient pas compris que c'était pas l'homme de chair, Jésus sur la terre, que c'était juste lui qui faisait tout ça. Il n'avait pas compris que cette puissance-là qu'il avait à l'intérieur était pour eux aussi. Mais pour qu'elle soit libérée, Jésus devait mourir. Il devait monter vers son Père. Il devait envoyer le Saint-Esprit. Moi, j'imagine comment ils ont dû vraiment capoter, là. Excusez mon mot, mais notre Sauveur, notre Roi, notre Messie est mort. Les rêves qu'ils avaient ont dû s'évanouir. Tout le plan qu'ils avaient mis dans leur tête s'est évanoui en un instant. Ils ont tout perdu. Et là, soudainement, leur roi Jésus est revenu à la vie. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais mon espoir a repris vie. Leur cœur a repris vie. Leurs espoirs ont repris vie. Tout a repris vie en un seul instant par la résurrection de Jésus. Toutes les promesses que Jésus leur avait données, maintenant, ont repris vie. Ils ont pu voir que là, tout ce que Jésus nous a promis, c'est qu'il va l'accomplir. Puis, c'est formidable parce que quand Jésus est revenu à la vie, avant qu'il monte vers le ciel pour de bon, pendant 40 jours, il a marché avec ses disciples. J'aimerais donc ça que ça soit dans la Bible. Désolée, c'est pas là. Ils les ont enseignés, ils ont semé dans leur vie. Puis il lui a dit, je pars vers mon Père, puis je vous envoie à Jérusalem. Attendez, je vais vous envoyer, quoi? Le Saint-Esprit qui va être là. La joie de la résurrection devrait vraiment encore faire partie de nos vies 2000 ans plus tard. Là, ce matin, je suis désolée, moi, je voulais vous donner un peu de joie, mais là, j'ai manqué mon coup. Tout le monde est... Mais on va couler avec ça, c'est correct. Jean 11, verset 25, nous dit ceci. Et Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. » La résurrection nous amène cette possibilité-là d'avoir accès à la vie éternelle. Que même si je meurs, c'est un début, c'est pas grave, mon corps va mourir, mais moi je vais vivre, mon âme va vivre éternellement dans la présence de Dieu. Jean 14, verset 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est venu sur la terre, mourir sur la croix, pour ouvrir le chemin, afin que nous, aujourd'hui, on ait accès au Père. C'est pas n'importe quoi, ça, là. Nous avons accès, aujourd'hui, à la présence du Père, la présence du Dieu de l'univers, de celui qui a tout créé, de celui qui règne au-dessus de tout. Parce que Jésus est mort, parce que Jésus est ressuscité, ce chemin-là, là, la vraie vérité, c'est que ce chemin-là, il n'y en a pas d'obstacle. C'est le monde, c'est l'ennemi, c'est la chair, c'est nos mauvais choix qui mettent des obstacles pour le chemin vers le Père. Mais Jésus dit, je suis mort pour ça. Puis c'est là qu'on ne comprend pas que la puissance qui a été relâchée à la croix cette journée-là fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai accès à une vraie vie de liberté. Jean 10:10 qu'on connaît tous, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus dit, moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Pas une petite vie plate, mais qu'elle ait la vie en abondance. Posons-nous cette question ce matin. Est-ce que la vie de Jésus, la vraie vie de Jésus, la vie qui a coulé à la croix, est-ce que cette vie-là est encore active en moi ce matin? Ou c'est une histoire de v'là 2000 ans? Ou c'est une histoire que je lis dans la Bible, mais que dans le fond, elle n'a plus de puissance? Est-ce que la puissance de la résurrection est encore vivante ce matin pour toi? Ça devrait. Ça devrait l'être. La vie qui a été relâchée la fameuse journée de Pâques. Cette Pâques-là, dans le fond, parce qu'il y avait eu des Pâques avant, parce que l'origine de Pâques, en passant, c'est pas ça. C'est dans l'Ancien Testament. Ce fameux Pâques-là, où est-ce que la vie... Dans le fond, Pâques, c'est associé à la vie tout court, même dans l'Ancien Testament. Pâques, frères et sœurs, c'est pas du chocolat. C'est la vie. La vie qui est relâchée à la Pâques devrait être active dans nos vies à tous les jours. Tous les jours. Jésus nous dit dans sa parole que cette vie abondante est pour nous. Puis, tu sais, Jésus, comme j'ai dit tantôt, a ouvert le chemin pour qu'on ait que la vie coule en nous, qu'on ait une vie qui est spirituellement active, qui est spirituellement vivante, qu'on soit vivant spirituellement. Jésus vient pour qu'on soit, est venu pour qu'on soit libre du péché, libre du plan que l'ennemi a pour notre vie. Qu'on soit libre de marcher dans la destinée que Dieu a pour chacun de nous. Le jour de ta naissance, Dieu y a dessiné un plan pour ta vie. Puis, tu sais, les psaumes nous disent « Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. » Alors qu'on n'était qu'une petite affaire qui avait rien, là, Dieu nous regardait, il pensait à nous, il rêvait à nous, puis il avait déjà un plan. Il y avait déjà une destinée. Puis malheureusement, le diable aussi en a une destinée. Puis lui aussi en a un but d'envie. Puis son but d'envie, c'est de te mettre des embûches pour que tu n'atteignes pas la destinée que le Père a pour toi. Parce qu'il sait que la journée que tu vas atteindre ta destinée, tu vas virer le monde à l'envers pour Jésus, puis ça ne tente pas. Mais ce matin, Jésus est mort sur la croix. Il est ressuscité pour te donner l'autorité, pour défier son plan, pour défier le jeu de l'ennemi, pour que tu puisses atteindre ta destinée. Mais c'est à nous de dire, est-ce que je prends encore cette puissance-là? Est-ce que cette puissance-là qui a été relâchée à la croix il y a 2000 ans est encore active? Ou je l'ai laissée dans le tombeau? Jésus a payé le prix de sa vie pour nous rendre libres. Puis il a tellement souffert que je pense qu'on n'a pas le droit de négliger ça. Qu'on n'a pas le droit d'oser dire que ça a servi à rien. Ça n'a pas servi à ce que tu aies la vie éternelle seulement. Oui, c'est un gros morceau. Oui, Jésus est mort pour qu'on ait accès à la vie éternelle. Ça, jamais je vais diluer ça. Mais on a eu plein de bonus avec. La vie éternelle, c'est le cadeau principal. Par amour pour nous, le Père en a donné plein d'autres. J'ai le droit de vivre dans la victoire. J'ai le droit de vivre heureux. J'ai le droit de défier l'ennemi. J'ai le droit de poser ma main sur les malades, puis de voir les malades être guéris. J'ai le droit de prendre autorité contre l'anxiété, contre la peur, contre la dépression. J'ai le droit d'avoir une vie épanouie. J'ai le droit d'être libre et heureux. Parce que je suis meilleur que quelqu'un d'autre? Non. Parce que Jésus à la croix a relâché cette vie. A relâché cette puissance-là. Et le jour de la résurrection, ça a pris vie. Puis maintenant, c'est à moi de choisir qu'elle vive en moi. Jésus veut venir dans les endroits de noirceur de ta vie ce matin. Les endroits où il y a la peur qui s'est installée. Les endroits où il y a la panique qui s'est installée. Les endroits où la crainte est là. Et il veut simplement souffler sa vie pour que ces endroits-là reprennent vie. Jésus veut venir dans les endroits de rejet de ta vie. Puis, s'il y a quelqu'un qui comprend ce que c'est le rejet, c'est Jésus. Jésus l'a vécu. Non seulement il a été rejeté à la croix, mais il a été rejeté par sa famille. Il a été rejeté par les gens de son village. Alors qu'il accomplissait des miracles, on lui disait, c'est pas juste le fils du charpentier, celui-là. On n'a même pas cru qui il était. On n'a pas reconnu l'appel que Dieu avait sur sa vie. On n'a pas reconnu qui était le Messie. On l'a rejeté, on l'a mis de côté, on l'a abandonné. Puis ce matin, ici, tu vis du rejet. Puis tu as l'impression que personne ne te comprend. Peut-être. On est des humains. Puis oui, des fois, on manque de compassion envers les gens. Puis des fois, on ne le sait juste pas parce qu'on ne l'a pas vécu. Avant que j'aie le cancer, quand quelqu'un me parlait de ce qui se passait dans sa tête la journée qu'il a eu le cancer, je ne pouvais pas comprendre. Maintenant, les gens ont juste à me regarder. Puis je réponds toujours la même chose. Tu n'as pas besoin de rien me dire. Je comprends. Je le sais ce que c'est. Je le sais ce que c'est. La panique incontrôlable qui part en vrille, puis qu'on n'arrive pas, puis qu'on pense qu'on va mourir, puis tout ce qui vient avec. Pourquoi? Parce que je l'ai vécu. Je sais ce que c'est. Si tu vis du rejet, Jésus l'a vécu. Jésus sait ce que c'est. S'il y a quelqu'un qui peut te comprendre ce matin, c'est lui. S'il y a quelqu'un que tu n'as pas besoin d'avoir de mots pour qu'il comprenne, c'est Jésus. Jésus a vécu l'abandon. Puis en plus de l'avoir vécu dans sa vie terrestre, dans les moments où ce qu'il en avait le plus besoin, tu le sais que tu vas mourir. C'est là que tu as besoin d'être entouré. Dans le temps où ce qu'il vivait, la situation, l'épreuve de sa vie la plus atroce, il s'est ramassé tout seul. Ça nous ressemble des fois, hein? Qu'on vit des épreuves difficiles dans la vie, que la vie nous magane, puis que là, on se sent vraiment tout seul, puis que c'est le temps où, que là, me semble, on aurait le besoin le plus d'avoir des gens pour nous autres, puis qu'on se ramasse pour plein de raisons tout seul. On n'est jamais tout seul, parce que Jésus est là, Jésus vient. Jésus a vécu le rejet, a vécu l'abandon, a vaincu la trahison. Il a vécu, il a vaincu, Puis ce matin, il veut te donner toute la puissance pour que toi, tu puisses le vaincre aussi. On n'est pas obligé de vivre comme ça toute notre vie. On a une solution. Le jour de la résurrection de Jésus, la vie a été relâchée. La vie pour nos corps, la vie pour nos âmes, la vie pour nos émotions, la vie pour nos situations les plus difficiles dans nos vies où il n'y en a pas d'issue, il n'y en a pas de solution. Cette vie-là a été relâchée. Puis elle n'est pas diluée aujourd'hui. Elle est encore aussi puissante. Le problème, c'est qu'on ne s'en sert pas. On ne fait rien avec. Jésus a vécu ce qu'on a vécu. C'était pas un extraterrestre, là, Jésus. Oui et non. Son désir ce matin, c'est de venir et de te rendre libre. Ce que tu vis présentement qui t'empêche de vivre la vraie liberté, Jésus, il veut venir, il veut relâcher la puissance de la croix, la puissance de la résurrection dans cet endroit-là et y souffler la vie pour que la vie revienne. Le Père, il, ce matin, il vient. Le Père, à la résurrection, dans le fond, à la mort, lorsque Jésus est mort sur la croix, la Bible nous dit que Dieu n'a pas pu supporter tout ce que Jésus a pu vivre. À la résurrection, son Fils revenait à la maison. Son Fils revenait avec lui. Le Fils qui avait accepté de venir sur la terre dans un corps humain avec nos limitations, de vivre l'atrocité de la crucifixion pour nous permettre à nous de retourner vers le Père. Puis la résurrection, c'est ce que ça fait. Ça permet en sorte que ce matin, il n'y a rien qui m'empêche de retourner vers mon Père. Chantal, tu ne connais pas mon cœur. Si tu savais ce qu'il y a dans mon cœur, repens-toi. Demande pardon. Parce que Jésus a payé à la croix pour tout ce qu'il y a dans ton cœur, pour que tu reviennes vers le Père. Oui, mais c'est trop difficile. J'ai trop d'épreuves, j'ai trop de problèmes. C'est trop dur de suivre Jésus. Je suis pas capable d'y arriver. Ben non, t'es pas capable. Moi non plus, je suis pas capable. Je suis pas capable de mes propres forces d'y arriver. On est tous pas capables. Parce qu'on n'est pas parfait. Parce qu'on est des humains. Mais par exemple, la journée que je me mets sur mes genoux, puis que je saisis la puissance de la croix, que je la rends vivante dans ma vie, je suis capable. Je suis très capable. Je suis capable de combattre les épreuves les plus difficiles. Seul, non, je suis pas capable. Mais quand je vais sur mes genoux, puis que je me saisis la puissance de la croix qui a été relâchée le jour de la résurrection, puis je me dis non, 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 non. Cet endroit-là qui est mort dans ma vie, qui marche pas bien, qui veut pas se soumettre à la volonté de Dieu, je vais laisser la vie couler en moi. Puis la résurrection, c'est ça que ça fait. La vie de Jésus qui vient et qui coule en nous, qui nous rend capables de faire des choses qu'on penserait jamais. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est qui nous fortifie? C'est Jésus. Le sacrifice de la croix, c'est beaucoup plus grand qu'une histoire d'un film de Pâques. C'est beaucoup plus grand qu'une histoire qu'on lit dans la Bible à Pâques, une fois par année. La mort et la résurrection, c'est ce qui fait qui nous sommes, les enfants de Dieu. Puis malheureusement, on s'en sert pas assez. On essaye trop par nos propres forces. Je suis capable. Est-ce que Jésus est mort en vain ce matin? Est-ce que le sacrifice de Jésus à la croix est suffisant? S'il est suffisant, pourquoi qu'on reste dans nos affaires? Pourquoi qu'on combat pas? Pourquoi qu'on prend pas toutes les armes qu'il nous a données puis qu'on s'en sert pas? Pourquoi j'utilise pas cette puissance-là? Si je l'utilise pas, c'est que je viens de dire à Jésus, t'es pas assez grand ton sacrifice. Puis je suis désolée ce matin, Jésus va jamais te forcer. Il va jamais te tordre le bras. Jamais qu'il va le faire. Parce que Jésus, il veut des enfants qui sont obéissants, des enfants qui l'aiment, puis des enfants qui ont compris que la croix est immense, que la résurrection, c'est immense, puis que je décide de le découvrir, de prendre ce cadeau-là, puis de le rendre utile, efficace, vivant, puissant dans ma vie, grand, fort, à tous les jours, au lieu de me débattre comme un enfant toute seule. On n'est plus des orphelins. On est des fils. On est des filles. Quand est-ce qu'on va le comprendre? Est-ce qu'on rend dans nos vies cette puissance-là active en nous? Ou comme j'ai dit tantôt, cette histoire, c'est juste une histoire de Pâques. Est-ce que la croix, est-ce que la résurrection influence encore ta vie aujourd'hui? À tous les jours. À tous les jours. Pas à Pâques, là. À tous les jours. Puis, frères et sœurs, je vous dis, je me confesse ce matin. Je me suis repentie cette semaine. Parce que moi, là, je voulais vous lire le meilleur des textes, tu sais, matin, de l'histoire de. Puis là, j'allais voir Terry. Terry, c'est quel évangile qui a les plus de détails? Parce que, on le sait, Matthieu, Marc, Luc, Jean, tous le racontent différemment. Puis moi, je lisais tout ça, tout partout, pour être sûr d'avoir les bonnes affaires. Ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long. Que Saint-Esprit me dit, puis toi, ce que tu lis, là, c'est-tu encore vivant aujourd'hui? Puis il y a des bouts, là, qu'il a fallu que je me repente. De dire, OK, on va revenir sur la bonne traque. À Noël, Terry m'a acheté un livre. Un livre dévotionnel. Puis, j'ai pas fini de le lire. Puis, j'ai dit à Terry, je pense que ça va me prendre 10 ans à lire. Parce qu'à chaque chapitre, là, ça prend un mois. Avec comme mon cœur est. Puis, je suis encore au même chapitre qu'au mois de décembre, qu'à Noël. Pas parce que je veux pas le lire. Pas je veux pas. C'est parce que je veux que ça soit efficace. On est rendu au mois d'avril. Puis, je me dis, il va falloir que je continue ce pareil, là, mais j'ai comme pas le goût. Puis, je vais juste vous lire un petit bout. Puis, je vous le dis, à tous les jours depuis le mois de décembre, ceci tourne dans ma tête. Une phrase qui a dit, est-ce que l'on vit selon ce que nous croyons? Et après ça, le livre, il disait ceci. C'est sûr, c'était en anglais, donc traduction adaptée. Si nous croyons que Jésus est mort pour nos péchés, pourquoi vivre encore dans le péché et nous laisser détruire et le laisser nous détruire et nous éloigner de Dieu? Si je crois que Jésus est puissant, pourquoi vivons-nous dans la défaite? Si nous croyons que Jésus est la paix, pourquoi être troublés? Si nous croyons que Jésus prend soin de nous dans les moindres détails de nos vies, pourquoi nous vivons dans l'inquiétude? Puis là, j'ai arrêté là parce que Lévi continuait. Pendant comme une page. Si je crois que Jésus est mort sur la croix, que Jésus est ressuscité, et que cette puissance-là est encore active pour moi aujourd'hui, pourquoi je vis dans la défaite? J'ai pas de raison. Simplement parce que je m'en sers pas. Parce que je pense pas que Dieu est si grand que ça. Parce que si je penserais que Dieu est vraiment grand, à la minute où l'inquiétude saisirait mon cœur, oui, c'est normal, l'inquiétude va saisir mon cœur, c'est sûr. Même Jésus, qui était le Fils de Dieu, avant la croix, ça dit, il a angoissé, son âme était angoissée jusqu'à la mort. C'est normal qu'on soit angoissé. C'est normal qu'on ait peur. C'est normal qu'on soit dans la panique. C'est normal que ces sentiments-là apparaissent quand on vit des choses difficiles. Si mon mari meurt après-midi, je suis désolée, mais je vais en pleurer une chouette. Ça va être normal. Ce qui est pas normal, c'est de continuer de vivre dans mon abattement, de vivre dans ma peine, d'entretenir ma panique, de me lever matin après matin et être angoissée, être « Seigneur, je vais manquer. Bon, je pars à ma job demain matin, puis là, j'imagine que là, je vais faire faillite, je vais tout perdre. » Puis de tourner ça dans ma tête, jour après jour, après jour, après jour, après jour. C'est là que c'est pas normal. C'est là que je donne l'impression que la puissance de la croix et de la résurrection est pas assez grande. C'est pas assez puissant, il en manque, il manque quelque chose. La puissance qui a été relâchée à la résurrection devrait faire en sorte que dans ma panique, que lorsque j'exprime au Seigneur tout comment je me sens, je suis capable de lui dire, mais j'ai besoin que tu relâches ta vie en moi. J'ai besoin que tu fasses couler en moi l'espoir. J'en ai plus d'espoir. J'ai besoin que tu me la donnes. Je suis malade. J'ai besoin que tu me guérisses. J'ai peur. J'ai besoin que tu me délivres. Puis de choisir de vivre en déclarant qui il est, en déclarant qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est grand, qu'il est victorieux, que Jésus est mort, oui, mais il est ressuscité. Puis aujourd'hui, c'est cette vie-là que je veux. C'est celle-là que je veux à tous les jours de ma vie. Puis que je choisis, même si c'est dur, de dire, je vais marcher là-dedans. Parce que Jésus, le sacrifice que tu as fait à la croix, est assez grand pour moi ce matin. Puis moi, je vais le prendre. Ah, je vais me péter la margoulette, puis je vais tomber, puis je vais être inquiète encore, puis je vais faire de l'angoisse encore. Mais oui, c'est pas grave. Relève. Relève-toi. Relève-toi. Puis prends-la, cette victoire-là. Puis marche avec. C'est pour ça que Jésus est mort. C'est pour ça que Jésus est ressuscité, afin que j'aie aujourd'hui une vie libre, dans l'abondance, libre du plan que l'ennemi a sur ma vie. Puis capable, avec Jésus, avec sa force, d'accomplir des affaires que jamais je pourrais accomplir avant. Qu'est-ce qu'on en fait de la puissance de la croix? Qu'est-ce qu'on fait de la puissance de la résurrection? Puis oui, la croix, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si Jésus ne serait pas ressuscité, ça serait fini là. Ça serait fini là. Le Seigneur, ce qu'il veut faire ce matin, c'est qu'il veut venir dans nos tombeaux. Il veut venir dans mon tombeau. Il veut venir fouiller dans ma vie, là. Puis tout ce qui est mort, là, puis que j'ai enfoui, là, depuis je ne sais pas combien d'années, là. Puis que Jésus, il veut dire, regarde, on va souffler la vie là-dedans. On va ramener ça à la vie. Ah, mais Jésus, rouvre pas ça, ça va se sentir mauvais. Parce que ça fait longtemps que c'est mort, ça, là. Ça va pourrir là-dedans. Tu sais, là, je ne sais pas, moi, mais. Moi, j'aimerais pas ça ouvrir un tombeau, en tout cas. Ça doit être épouvantable, la senteur qu'il y a là-dedans. Mais pensez-vous que Jésus, ça y fait peur, ça? Et combien de rêves que tu as laissé mourir? Puis je sais, je vous ramène ça souvent. C'est combien de rêves qu'on a laissé mourir? Combien de dons qu'on a laissé mourir? Parce qu'on a agi comme des orphelins. Oh, mais je suis pas assez grand, je suis pas assez important, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. On a combien de rêves qu'on a laissé mourir parce qu'on s'est comparé aux autres? Puis dernièrement, le Seigneur amène, souffle la vie dans certains rêves que je pensais qu'ils étaient vraiment morts. T'sais. Puis que même je voyais pas le jour. T'sais. Puis ça, je vois pas encore le jour, pas du tout. Mais c'est comme si le Seigneur a dit, ben là, moi, je vais souffler la vie là-dedans. Puis il a juste ouvert le tombeau. Il n'y a rien de sorti encore. C'est encore tout pourri là-dedans. Mais je le sais, par exemple, que ce qui va sortir, ça va être glorieux. Que quand Jésus a ressuscité, c'était tellement glorieux que Marie ne l'a même pas reconnu. C'est glorieux. Ils ont mis un Jésus en terre que la Bible dit qu'il ne ressemblait même plus à une face humaine, tellement ils l'ont magané. Ils l'ont brisé, ils l'ont défaite. Ils n'ont pas brisé ses os. Sa chair a été brisée. Son visage a été déchiré. On a mis quelqu'un de défiguré dans un tombeau. Et la puissance de la résurrection a ramené à la vie quelque chose de glorieux. Les vieux rêves qui dorment, la journée que la vie de Jésus va souffler là-dedans, ça va être glorieux. Est-ce que la puissance de la croix est assez puissante ce matin pour ramener la vie dans ces endroits-là? La seule personne qui peut choisir, c'est toi puis moi. C'est nous. C'est nous. On a le choix ce matin de dire, je vais célébrer Pâques, je vais célébrer, excusez-moi, la résurrection de Jésus à Pâques l'année prochaine. Ah, oh, peut-être la prochaine fois, on va prendre la Sainte-Seine, par exemple, je vais y repenser un peu. Puis peut-être, durant une prêche de temps en temps, qu'on va entendre parler de Jésus et de la mort, ça va me ravigoter. Mais dans ma vie de tous les jours, c'est bon. J'ai pas besoin. Ou bien j'ai le choix de dire, non, à partir de maintenant, je vais rendre le sacrifice de la croix vivant puis puissant en moi. Je vais m'éloigner du péché. Je vais m'éloigner de tout ce qui me retient de pouvoir accomplir ma destinée. Je vais m'éloigner de la crainte. Je vais m'éloigner de la peur. Je vais m'éloigner de la dépendance. Peu importe, mettez-y le nom que vous voulez. Je vais m'éloigner de tout ça parce que Jésus, de toute façon, il est mort à la croix pour ça. Puis maintenant, je vais prendre cette vie-là, je vais l'appliquer dans ma vie, puis je vais marcher comme un enfant victorieux. Je vais marcher comme un fils. Je vais marcher comme une fille. Puis c'est du ciel. Je vais marcher de gloire en gloire, en gloire et en gloire et en gloire jusqu'à temps que je sois libre comme Jésus veut que je sois. Puis la journée que je vais être libre, je vais pouvoir aller voir mes frères, mes sœurs, puis leur dire, tu veux ça un petit coup de main pour être libéré? Je peux t'aider. On peut faire ça ensemble, si tu veux. Comme une famille, on va faire ça ensemble. Peut-être que tu as de la misère. Je peux t'aider. On va le vivre ensemble. Je te comprends peut-être pas. Peut-être que je n'ai pas marché dans tes bottines. Mais si tu veux m'aider, si tu veux que je t'aide, on va le faire ensemble. Puis qu'on va être assez grand, assez mature dans la foi pour aller libérer nos frères, libérer nos sœurs, pour que la vie de Jésus-Christ, pour que la puissance de la résurrection ne coule pas seulement dans ma vie, mais dans ma famille, puis dans notre famille ici, dans l'Église au complet, pour qu'après ça, main dans la main, on puisse sortir dans ce monde, puis aller libérer ceux qui souffrent, ceux qui sont liés par l'ennemi, ceux qui ne savent pas, eux autres, que Jésus est mort sur la croix pour eux, ceux qui ne savent pas qu'il y a une solution facile pour leurs âmes, pour la guérison. C'est à nous de faire ça. C'est à nous de faire ça. Est-ce que la puissance de la croix est assez grande pour premièrement me libérer, libérer mes frères, mes sœurs, libérer l'Église, puis aller libérer le monde qui est dehors? Moi, je pense que oui. Moi, je pense vraiment que oui. Mais ça, c'est à nous de décider comment on va faire ça. Je pense que Julie, ton rêve, il fait bien là. Ouais. Julie est venue me voir tantôt parce qu'elle a eu, un rêve et qu'elle voulait le partager.
Dans le fond, ce rêve-là, c'est depuis la semaine passée. Puis, j'ai rêvé à Jésus. Je vais sauter un peu des petits détails, là, mais qui est plus ou moins important. Fait que c'est ça, j'ai rêvé à Jésus. Puis, Jésus, il était grand, là. On sait qu'il est grand, là, mais là, je le voyais vraiment grand. Puis, Jésus, ben premièrement, j'ai vu en dessous des pieds de Jésus. Parce que Jésus, ses pieds n'étaient pas sur terre. Il était comme, tu sais, mettons, à la hauteur des arbres. Puis il marchait. Il marchait à la hauteur des arbres. Puis en dessous de ses pieds, c'était des crampons qu'il y avait. C'était des bottes à crampons. Puis les bottes, là, c'est des bottes qu'on peut voir à tous les jours, là, de nos jours, là. Puis sur ses pieds, il y avait du monde sur ses pieds, là. C'était plein. Je voyais pas, tu sais, on peut dire noir de monde, là. C'était plein, ses deux pieds, là, tu sais. Puis dans sa main droite, il y avait un bateau, un grand bateau. Puis il y avait plein de monde dans ce bateau-là. C'était noir de monde aussi. C'était plein. Puis Jésus fait, faut que je l'imite parce que c'était tellement beau dans mon rêve, là. Jésus, là, il marchait comme ça. Puis il s'en allait comme ça. Tu sais, puis c'est quand que je le voyais, ça amenait une sécurité, ça amenait aussi de l'aide. Jésus, il venait pour de l'aide, il intervenait, mais ben tranquillement, il marche. Puis ce que j'ai compris de ça, c'est que les pieds représentent le salut, Donc, il y a plein de monde. On peut dire, il y a une moisson. Fait qu'il y a plein de monde là. Le bateau représente les nations. On sait que notre Église, elle va vers les nations. Puis Jésus qui marche, mais il bouge. Il bouge aujourd'hui, là. C'est pas pour demain, là. C'est aujourd'hui. Puis le Seigneur, il veut qu'on marche avec. Puis je trouvais aussi qu'il y avait un lien parce qu'on parle de la résurrection. On parle de qu'est-ce que Jésus a fait. Puis il marche. Il marche pas exactement sur terre, mais comme au deuxième ciel. Je sais pas si tout le monde est à l'aise là-dedans, le deuxième ciel, mais c'est là qu'il se passent les combats spirituels. Mais Jésus, lui, il marche là. On a la victoire avec Jésus, là. Tu sais? Puis, c'est ça, marchons avec. Il y a quelque chose qui se passe dans l'Église, là. Il y a vraiment quelque chose. C'est réel, faut prendre au sérieux. Mais Jésus se réjouit, là. J'ai pas vu qu'il se réjouissait, mais c'est ça que je sens aujourd'hui. Il se réjouit de marcher, puis il veut qu'on marche avec lui. Il y a quelque chose qui s'en vient.
J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble, puis on va terminer avec le chant qu'on a chanté dans la louange. À la croix, je me prosterne. Puis, sortons pas dans l'abattement ce matin. Sortons remplis de joie, remplis d'espoir, que c'est la vie ce matin. La résurrection, c'est la vie. Puis, si on est endormi spirituellement, c'est juste le temps de se réveiller. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Laissons la puissance de la vie de Jésus qui coule en nous ce matin venir nous réveiller. Puis, frères et sœurs, il y a des belles choses qui s'en viennent. Soyons prêts à aller ramasser ce que Dieu fait.
Je voyais qu'il y a des gens qui ont fait de l'ennemi plus grand que Jésus. Pour toi, pour vous, l'ennemi a plus de puissance que Jésus peut en avoir. C'est complètement ridicule. Le rêve à Julie est comme juste venu confirmer ce que je voulais. J'étais comme, là, le cœur me débouche. Je le dis si, je le dis pas, je fais quoi avec tout ça? Puis en faisant de l'ennemi plus grand, plus puissant que Jésus, mais en quelque part, tu le laisses t'utiliser. Tu laisses t'utiliser pour détruire les gens autour de toi. Tu laisses t'utiliser pour blesser les gens autour de toi. Pour être la victime. Pauvre de moi. Puis tout ce que tu vois, c'est ton petit monde autour de toi qui est triste. Puis à travers tous les mensonges que tu crois par rapport à qui l'ennemi est puis qui Jésus est. L'ennemi t'utilise pour détruire et blesser autour de toi. Je vais déclarer ce matin que c'est fini. je voyais le Seigneur qui mettait, tu tantôt je parlais de murs autour de, du cœur des gens. Je voyais qu'il mettait des murs autour de l'Église, puis de ceux qui sont dans l'Église. Puis quand l'ennemi vient, ben c'est l'ennemi qui frappe un mur, c'est plus Jésus qui frappe au mur. Le combat est déjà gagné. Et puis j'appelle la victoire sur ta vie. Je prie que Dieu puisse vraiment ouvrir tes yeux à sa grandeur. À sa vérité, j'appelle la vérité sur ta vie, sur, dans ton cœur, dans ta situation. Complètement ridicule d'essayer d'arrêter ce que Dieu veut faire. C'est comme, voyons qu'on veut passer comme ça. Seigneur, je te demande pardon pour les pensées bizarres que l'ennemi puisse venir mettre dans la tête des gens que ils ont de la puissance, puis ils ont du pouvoir en quelque part. Puis que c'est l'ennemi qui est plus grand, puis que, comme Chantal disait, que la croix vaut rien dans ce temps-là. Mais t'as déjà vaincu. Il a déjà vaincu. Ça vaut pas la peine d'essayer de se battre contre lui. Il a déjà vaincu. Accroche-toi à la victoire. Accroche-toi à qui il est. Pas aux choses qui te sont arrivées pour jouer à victime, pour garder tes blessures, puis nourrir ces blessures-là, puis nourrir toutes les pensées bizarres qui veulent venir contre l'œuvre de Dieu, puis contre Dieu, puis contre le peuple de Dieu. C'est fini. C'est assez. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Et je prends autorité sur tout ce qui est venu contre cette Église, sur tout ce qui est venu contre tes enfants, Père. Viens remplacer tout ça par ta vérité, par ta guérison, par ta victoire. Viens ressusciter ton peuple. Te ressusciter aujourd'hui, qu'on ressuscite avec toi, Père. Merci, Père, pour la victoire. Merci que c'est toi le plus grand, c'est toi le plus fort. Merci que l'ennemi frappe un mur. Merci que l'ennemi frappe un mur puis qu'il ne peut pas s'attaquer à tes enfants. Ce matin, on te dit merci pour cette victoire qui est nôtre, pour cette victoire qui nous appartient. Puis, Père, nous déclarons que nous, Seigneur, nous prenons position pour marcher dans cette victoire que tu nous donnes. Ah! Puis, Père, on te prie ce matin pour tous ceux qui sont en direct ce matin, pour tous ceux qui vont écouter cet enseignement-là dans les jours, les semaines à venir. Père, que ta vie puisse vraiment prendre place dans nos cœurs, dans nos vies. Yeah. Je ne sais pas si vous savez, mais maintenant, nos dimanches matins sont diffusés en direct sur Internet. Puis, je crois vraiment que la parole que Colette vient de donner, tu sais, des fois, le Seigneur peut donner aussi des paroles pour les gens qui vont écouter ça en direct. Puis, je ressentais ça comme ce matin, que quelqu'un qui est l'autre bord de la caméra, puis que Seigneur veut te toucher, puis te saisir, puis on appelle la vie ce matin. Appelle la vie ce matin. Cette Église est appelée à atteindre les nations. On y va aux nations, oui, mais merci Seigneur, parce qu'on va servir du web pour aller atteindre les nations, afin que les cœurs soient libérés, que les cœurs soient guéris. Puis ce matin, on déclare cette Église-là victorieuse. On marche dans la vie, puis que ce matin, que vous puissiez avoir une belle journée de Pâques remplie de la vie en se rappelant que Jésus n'est pas mort en vain, que Jésus est mort pour nous donner la vie, pour nous donner la victoire, puis qu'on soit heureux, épanoui et joyeux. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont des repas de Pâques, donc soyez bénis. Je vous souhaite une belle semaine. J'ai demandé à Sarah de nous rechanter le chant à la croix. Ceux qui doivent quitter, quittez. Ceux qui veulent prendre du temps dans la présence de Dieu, on va le faire. Puis, mercredi soir, on oublie les soirées de louange et d'intercession. Vendredi, n'oubliez pas la fin de semaine du fleuve. Puis, se préparer nos cœurs. Cette semaine, marchons dans la victoire, dans la sainteté. Puis, redonnons à Jésus la puissance qui lui revient. Bonne semaine à tous.